Bonsoir, célébration le 30 avril de la journée nationale de l'enseignement avec pour thème tous pour l'éducation des qualités. Dans son message à cette occasion, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel appelle les Congolais à s'associer au gouvernement dans la réforme de l'éducation nationale. Quelle analyse faire du niveau de l'enseignement aujourd'hui en RDC? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 30 avril 2014. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Fabien Bouetou-Telamio. Il est directeur provincial de l'EPSP Kine Ouest. Monsieur Bouetou-Telamio, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Pierre Kimbuya, secrétaire général du syndicat des enseignants du Congo, SIECO en sigle. Il est aussi chercheur et en didactique des sciences. Monsieur Kimbuya, bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Mafeli Makambo, il est docteur d'état en sciences politiques et professeur à l'Université pédagogique nationale et professeur visiteur à l'Université de Matadi au Bas-Congo. Professeur Mafeli, bonsoir.
Bonsoir madame la journaliste.
Vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Charles Kabongo de Mbujimayi au Kassai Oriental. Le niveau de l'enseignement en RDC est à plaindre du fait que c'est la corruption qui bat le record même au niveau des humanités. Il n'y a plus de rigueur et du sérieux. Sébastien Idi de Kongolo Katanga. Pour arriver à une éducation de qualité, il faut que le gouvernement songe à bien payer des enseignants que l'on a taxés autrefois de cinquième roue. Tant que les parents continueront à supporter la prime allouée aux enseignants, l'éducation de qualité restera un slogan dans les tiroirs du ministère de l'EPSP. Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapu.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La RDC célèbre ce mercredi 30 avril la journée nationale de l'enseignement. À l'occasion, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC ont organisé un sit-in devant le cabinet du ministre de l'EPSP à Kinshasa. Une façon pour ces structures d'interpeller les autorités congolaises par rapport aux revendications des enseignants qui, jusqu'ici, ne trouvent pas de solution. Autre objectif, contraindre le gouvernement congolais et les structures qui gèrent le système éducatif notamment à régulariser la situation de 300 000 enseignants impayés depuis plusieurs mois, assurer aux écoles les frais des fonctionnements conséquents et corriger les mécanismes des payes des enseignants par système bancaire. Les manifestants ont été par la suite dispersés par la police déployée sur place. Écoutez à ces sujets le porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, Jean Bosco Puna, et au micro de Belinda Bosuma.
Il y a 300 000 enseignants qui travaillent sans être payés. Ça fait des années et des années, nous avons observé le gouvernement, il n'agit pas. Mais il y a également les problèmes de salaire. Vous savez que depuis que nous avons eu un petit réajustement des salaires en 2007, jusqu'à aujourd'hui, l'enseignant est abandonné à son triste sort. Nous avons pensé que trop c'est trop. Il est question pour nous de pouvoir commencer ces actions syndicales aujourd'hui pour interpeller tous les partenaires qui gèrent le système éducatif afin qu'on donne des réponses aux problèmes de l'enseignement. Le ministère de l'EPSP vient d'envoyer le directeur provincial, mais la question que nous posons aujourd'hui ne peut pas trouver de réponse au niveau du ministre de l'EPSP, qui n'est qu'un maillon du gouvernement. Les enseignants, ce sont des gens qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas de maison, et ils n'ont pas de soins de santé acceptables. Et quand un enseignant décède, eh bien, son nom est élagué, sa famille reste vraiment dans la misère la plus noire. Il y a également l'interpellation au niveau du Parlement. Comment voulez-vous que, jusqu'à aujourd'hui, on nous a confinés dans un budget quinquennal, un budget qui ne change pas? Aujourd'hui, là, vraiment, nous ne pouvons plus supporter.
Voilà, c'était la Jean Bosco Puna au micro de Belinda Bosuma, Fabien Bouetou-Telamio. Je rappelle que vous êtes directeur provincial de l'EPSP Kine Ouest. D'abord, qu'est-ce que cette journée représente pour vous?
Bon, en principe, aujourd'hui, c'est une grande journée de fête.
Malheureusement,
nous avons réfléchi sur un thème important qui a été retenu dans la nouvelle loi 4, c'est-à-dire l'éducation de base qui a été renforcée. Nous avons réussi à organiser plusieurs activités sans interruption. Il y a eu des animations pédagogiques à gauche, à droite, Depuis hier, toutes les écoles ont réussi à organiser des journées écoles portes ouvertes. Les parents sont allés dans des écoles, ils ont vu, ils se sont rendus compte qu'un travail de qualité est en train d'être fait, parce qu'il y a eu des productions des élèves qui ont été vendues dans différentes écoles, vendues et présentées dans différentes écoles. Et aujourd'hui, la journée a été clôturée par plusieurs activités sportives. Nous avons clôturé la saison sportive 2013-2014 et c'était très bien passé. En tout cas, on n'a pas trop de commentaires à faire.
Et c'est qui a organisé toutes ces manifestations? Le ministère de l'EPSP?
Bon, les manifestations sont organisées conjointement par la ville de Kinshasa et le ministère de l'EPSP.
Alors, d'un côté, le ministère de l'EPSP organise des manifestations pour fêter cette journée. De l'autre côté, on a des enseignants qui manifestent du fait qu'il y a 300 000 enseignants. C'est quand même trop, qui travaillent sans être payés depuis des mois.
Je n'ai pas vu les enseignants manifester.
Et qui sont dispersés par la police ensuite.
Le syndicaliste a fait allusion au directeur provincial. C'est de moi-même qu'il s'agit. C'est moi qui suis parti parce que j'ai vu un groupe d'enseignants qui n'étaient pas d'enseignants d'abord. J'ai vu un groupe de personnes qui étaient non loin de mon bureau de travail. Ils étaient sur le croisement Batete-Lahaye avec des cliniques. Je les ai aperçus, je les ai approchés et c'est là où je verrai notre frère Puna avec tant d'autres personnes qui l'accompagnaient. Je pense qu'ils étaient au total à 28.
Donc, vous avez eu le temps de compter toutes ces personnes?
Oui, j'ai eu le temps de compter toutes ces personnes. J'étais à 28 avec plus ou moins 7 femmes. Je me suis entretenu avec M. Puna pour lui dire que les moments n'étaient pas indiqués pour que les gens puissent commencer à circuler dans la rue et faire du n'importe quoi. Et effectivement, il m'avait compris. Il a sollicité la voix de la base pour dégager la voie qu'ils occupaient, mais malheureusement, je me rendais de plus en plus compte que on ne faisait plus face aux gens qui étaient avec lui, qui l'accompagnaient pour un but bien précis, mais c'était des personnes un peu intoxiquées, quoi, parce que j'ai vu un enseignant. J'ai approché plutôt quelqu'un qui était avec lui là, qui utilisait des langages déplacés et qui apparemment sentait un peu de l'alcool. Je me suis dit non.
Et c'est comme ça que vous avez donné l'ordre à la police de disperser ces enseignants?
Non, on n'a pas donné l'ordre à la police de disperser. Vous savez que c'est une zone qui est vraiment sécurisée et il y a la police qui de temps en temps fait la ronde dans le cas de l'itinérance et la police a constaté qu'il y avait cet entroupement de ces 28 personnes.
Et d'elle-même,
la police les a approchés et la police les a demandé tout simplement de prendre contact avec qui de doit pour déposer s'ils ont un mémo. Mais ils n'avaient même pas un mémo. Au contraire, ils brandissaient à la police une lettre qu'ils avaient écrite au ministre pour obtenir l'autorisation d'organiser un sit-in. Et non, nous on a dit avec les policiers que ce n'est pas au ministère de l'EPSP qui doivent s'adresser pour organiser un sit-in. C'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui a le pouvoir de police dans cette province, ville-province, qui peut recevoir ce genre de demandes et qui en apprécie.
Alors, Monsieur Fabien,
je dit que le moment n'était pas indiqué et surtout que...
On vous a compris, Monsieur Fabien Mbouetouté-Lamio. Est-ce que leurs revendications sont fausses ou non fondées?
Qui était en train de revendiquer? Qui doit revendiquer? Ce sont des syndicalistes qui revendiquent. Ils avaient des banderoles qui ne portaient aucune mention d'un syndicat, s'il vous plaît. Nous connaissons la liste des syndicats de l'EPSP. En les approchant, nous sommes quand même connus par les enseignants. Nous n'avons fait que ça dans la vie. Aucune personne d'entre elles ne pouvait nous reconnaître.
Merci.
À part lui-même et Puna. Donc nous n'étions pas en présence des enseignants. Nous étions en présence des personnes qu'on a recrutées pour essayer tout simplement de déstabiliser, pour tenter plutôt de déstabiliser les activités que nous on organisait. Monsieur, ça n'a rien à voir avec des revendications, ça n'a rien à voir avec un sit-in, ce sont des manipulations des politiciens que nous connaissons très bien, qui sont très bien identifiés, qui ont depuis un certain temps pris la décision de créer des problèmes à l'EPS.
Alors, M. Bois, écoutez la mieux.
Il n'y a pas eu un sit-in, il n'y a pas eu des revendications, il n'y a pas eu un syndicat identifié par nous qui s'est placé devant les cabinets ou, je ne sais pas moi, en route pour...
Alors, vous l'avez déjà dit, Monsieur Boetouté Lamio. Alors, revenons au thème de la journée éducation qui porte sur l'éducation des qualités. Qu'est-ce que ce thème, quel sens vous donnez à ce thème?
Éducation des bases renforcées dans la nouvelle loi cadre.
J'ai le message
promulgué par le chef de l'État.
J'ai le message du ministre Makaire Mwangu, et dans son message c'est écrit tous pour l'éducation des qualités. Tel est le thème de cette journée de l'enseignement national. Alors quel sens vous donnez à ce thème?
Non mais je donne à ce thème un sens assez responsable, parce qu'en fait plusieurs actions, n'est-ce pas, ont été menées depuis un certain temps en faveur de ce que le ministre avait dit, hein, la qualité de l'enseignement, la qualité des apprentissages. Vous savez, maman, nous l'avons toujours dit et très bien souligné, que le contexte de l'enseignement a beaucoup évolué. Autrefois, comme nous enseignait le professeur Ngongo Disashi, nous étions dans un système d'enseignement, plutôt l'enseignement était un art. Mais aujourd'hui, l'enseignement a cessé d'être un art. L'enseignement est devenu une science. Les méthodes d'évaluation en science ne sont pas les mêmes que celles dans le domaine de l'art. Autrefois, on avait des considérations pour apprécier la qualité de l'enseignement. Mais aujourd'hui, ce sont des ingrédients qu'il faut mettre pour obtenir un enseignement de qualité. À notre humble avis, ces ingrédients qui sont très bien connus, c'est la formation continue des enseignants, la formation initiale des enseignants, la disponibilisation des ressources pédagogiques, c'est-à-dire les manuels scolaires et des programmes scolaires.
Merci, monsieur Boetouté Lamio. Je vous redonne la parole tout à l'heure dans notre deuxième tour de table. Jean-Pierre Kimbuya, secrétaire général du syndicat des enseignants du Congo, SIECO en sigle. Vous êtes aussi chercheur en didactique des sciences. Quel sens vous donnez à cette journée? C'est votre journée.
Oui, en fait, cette journée pour nous au niveau du syndicat des enseignants du Congo est une journée au cours de laquelle nous avons pensé mobiliser du soutien en faveur du secteur de l'enseignement auprès de toute la communauté nationale. Et c'est là en rapport avec le thème « Tous pour une éducation de qualité pour tous ». Nous croyons fermement. Et pour réaliser ces rêves-là, il faut des enseignants de qualité, c'est-à-dire bien formés initialement, mais qui bénéficient de la formation continue, c'est-à-dire en cours de carrière, mais aussi bien motivés, mais aussi...
Cette formation a déjà commencé?
Oui, la formation initiale des spécialistes, des agrégés d'enseignement pour les secondaires, mais au niveau du primaire, ceux qui ont fait des humanités pédagogiques. Et en cours de formation, et parce que vous savez que la science évolue, la technologie évolue, il faut qu'il soit à la page de l'information pédagogique, de l'information scientifique, mais aussi la condition enseignante. Là, ici, je cite, à part la motivation des questions salariales, il y a les infrastructures scolaires. Quelles sont les conditions d'enseignement? Quelles sont les conditions d'apprentissage? C'est ainsi que nous avons été amenés, nous, au niveau du syndicat des enseignants du Congo, de réfléchir avec nos délégués pour faire l'état des lieux du secteur depuis les 30 avril 2013, jusqu'à ce jour, ça fait une année, et formuler des recommandations en direction du gouvernement parce que des efforts sont fournis, bien entendu.
Alors, c'est quoi les résultats? Vous êtes arrivé à quel résultat?
Oui, mais c'est
vrai. Est-ce qu'il y a des améliorations?
Non, c'est-à-dire que l'état des lieux, tout n'est pas noir et tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. C'est vrai, il y a des efforts qui ont été fournis par les gouvernements jusque-là, mais c'est encore loin des attentes des enseignants de la communauté nationale. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui vont être développés peut-être au cours de cette émission, mais nous croyons fermement que le chemin à parcourir est encore très long.
Alors, vous pouvez développer déjà ces aspects-là.
Oui, notamment, vous savez qu'il y a la question avec la motivation des enseignants. Nous sommes au mois d'avril, c'est le 30 avril, Les enseignants étaient surpris de se rendre compte que malgré les budgets promulgués par les chefs de l'État, qui prévoyaient une augmentation des salaires pour tous les enseignants de l'État, ils n'ont pas touché d'augmentation des salaires. Les salaires n'ont pas été majorés. Par rapport aux enseignants NP non payés, c'est autour, si j'ai les chiffres exacts au niveau des services des contrôles de la paie des enseignants, c'est 257 000 NP. 12 500 enseignants seulement ont été pris en compte pour la paie du mois d'avril, c'est tout le temps de la République. Vous comprenez qu'il y a au moins la moitié des enseignants qui travaillent n'ont pas leur salaire. Donc ça fait autour de 5-6% du personnel. Mais il y a l'aspect en lien avec la paie bancaire. C'est une réforme du gouvernement que nous avons soutenue, mais ça fait plus de mal aux enseignants. Déjà, avant d'aller en cette matinée de réflexion, les enseignants des provinces nous avaient écrit. Je cite les territoires d'Ijui, des Kabare, des Walungu, les Sikifs, ils n'ont pas touché leur salaire d'aujourd'hui. Vous allez dans les Maïndombe,
touché le salaire du mois d'avril.
Du mois d'avril. Bolia, Basengele, ce sont des territoires dans les Maïndombe. Ça fait presque, en tout cas, 2-3 mois qu'ils n'ont pas le salaire. Il y a 3 semaines qu'ils sont restés à la maison, les enseignants. Et dans la cité d'Indongo, ils n'ont pas aussi été payés. Les salaires ne sont pas sécurisés. À Lubero, le 26 mars, les convois des caresses avaient été attaqués. Et une bonne partie des salaires avaient été détournés. Voilà, des questions en rapport avec ces salaires qui sont payés par voie bancaire. Réforme que nous soutenons, mais l'État n'arrive pas toujours à sécuriser ces salaires-là, malgré toutes les recommandations qui sont formulées en sa direction. Mais il y a aussi des inspecteurs qui consistaient en quelque sorte les gendarmes de notre système éducatif. Ils n'ont pas de prime d'itinérance, ils n'ont pas de prime de fonction spécifique. C'est un problème. L'assurance et santé que nous saluons en termes de protection sociale des enseignants existe au niveau seulement de la ville de Lubumbashi et de la ville de Kinshasa.
Le gouvernement avait dit qu'on allait y aller progressivement.
Tout à fait. Ça, c'est en termes de diagnostic. Mais les anciens de toute la République aussi souhaitent que ça soit étendu dans leur province. Donc, tous ces aspects-là ont été développés. Mais vous devez savoir que la pièce maîtresse du système éducatif, c'est l'enseignant. Il y a des infrastructures scolaires qui sont construites parce que il y a le professeur Lubaba Mfoma que je cite, qui avait dit que il y aura toujours 10 travaux dans l'enseignement. Tant que les Congolais mettront au monde, les parents Congolais mettront au monde, il y aura toujours 10 travaux pour les enseignants. Mais quel travail? Il faut que ce soit un travail décent, un travail de qualité. Les infrastructures scolaires, oui, mais la pièce maîtresse, c'est l'enseignant. Il y a deux chercheuses, je cite ici Paloma Bourgonge et Rosanne Trump, qui ont fait des recherches sur les indicateurs de qualité. Ils ont été clairs. Aucun établissement scolaire n'est meilleur que ses enseignants. On peut bien équiper les établissements scolaires, c'est une bonne chose, mais il faut penser à la pièce maîtresse qu'est l'enseignant. Donc, que la chute ne soit à la baisse du niveau d'enseignement a commencé le jour que monsieur l'enseignant avait été ignoré. Voilà ce que je peux dire à ce stade en termes du diagnostic qui a été effectué sur l'état des lieux du secteur, mais en rapport avec la pièce maîtresse qu'est l'enseignant.
Alors, j'allais justement poser la question de quelle analyse vous faites du niveau de l'enseignement aujourd'hui en RDC. Pour vous, le niveau a vraiment baissé?
Le niveau a baissé, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est depuis plusieurs années. Mais les coups de massue, c'était en 93, lors de l'institutionnalisation de la prise en charge des enseignants par les parents. Les enseignants de l'UOS, je cite ici Aquilonde, nous ont appelés hier pour nous demander de pouvoir formuler ça comme, n'est-ce pas, une revendication, qu'on mette fin à la prise en charge des enseignants par les parents, parce qu'il y a des établissements scolaires où on a 150 élèves au début de l'année scolaire, et à la fin, on n'a que 80, 70 élèves. Il y a une forte dépression scolaire, et ces enfants vont grossir les rangs des enfants de la rue. Or, la jeunesse est une force productrice. L'avenir du pays, c'est la jeunesse. Donc, ça pose un réel problème. Et tout ça, vous comprenez que lorsque les enseignants qui viennent travailler comme des mercenaires, parce qu'ils ne comptent pas sur l'État congolais qui est leur employé dans le secteur public, ce sont les parents qui doivent leur payer. Ils sont des mercenaires, ils ne voient plus, n'est-ce pas, la qualité de l'enseignement, et ce sont les enfants qui en pâtissent. Donc, il faut les chasser chaque fois, les écoles étant transformées en régie financière, et ça joue. Lorsque les enfants qui ont fait 2-3 semaines à la maison reviennent, les matières ne sont pas reprises, et ce sont les parents qui vont payer les frais qu'ils perdent, et ça joue beaucoup ce niveau d'enseignement, mais ce n'est pas seulement au niveau du primaire et du secondaire, cela se répercute jusqu'au niveau de l'université. Si on ne fait pas attention, on risque d'avoir dans les jours à venir des ministres et des députés semi-lettrés.
Merci Jean-Pierre Kimbuya, professeur Mafeli Makambo. Vous êtes docteur d'État en sciences politiques et professeur à l'Université pédagogique nationale et professeur visiteur à l'Université de Matadi au Bas-Congo. Quel sens vous donnez au thème retenu pour cette année, éducation des qualités pour tous?
Madame, je vous remercie d'abord de m'avoir associé à ces débats. Quel sens je donne à cette journée? C'est une journée importante. C'est une prise de conscience, donc une sorte de conscientisation de la communauté éducative. C'est une sorte d'interpellation à tous les acteurs concernés par l'éducation, l'enseignement, qui est une valeur. Ça, c'est une valeur, une de valeurs. Et ce serait donc une valeur très importante. OK? Parce qu'on dit d'abord, dans un premier temps, il faut investir dans l'homme, dans l'individu, parce que c'est l'homme. Il faut investir en lui, parce que c'est lui, l'homme qui transforme, qui façonne la société. Alors, si l'homme est mal formé, mal éduqué, il pourra pas répondre aux attentes de la société. Voilà. D'abord, c'est ça. C'est une interpellation aussi. Interpellation. Là-dessus, j'aimerais aller plus loin. Donc, tous les acteurs concernés par l'éducation sont concernés. À commencer d'abord par le parent, le pouvoir public, les enseignants, et enfin, les enfants eux-mêmes. Vous voyez, donc, c'est une grande journée. Hein, on fait prendre conscience. On veut interpeller la communauté, on veut interpeller les hommes, les personnes, les responsables. L'enseignement est une valeur non négligeable. Donc, il faut bien former les gens. Et pour bien former les gens, il faut qu'il y ait quand même des formateurs, bien sûr. Et le même formateur doit aussi être bien formé. Non seulement le formateur aussi, mais il faut qu'il y ait aussi le pouvoir public qui doit être là pour mettre le moyen pour pouvoir quand même répondre à tout ce besoin. Alors, il y a le parent aussi. Hein, voilà. Donc, en gros, c'est ça. C'est une journée très importante. Elle est capitale. C'est une journée de sensibilisation, de prise de conscience pour dire que l'enseignement, c'est une valeur non négligeable. Voilà d'abord pour la première question.
Alors, professeur, on sait que la journée de l'enseignement, c'est comme vous le dites, hein, c'est une grande journée pour l'enseignant. Mais malheureusement, on a constaté que depuis quelque temps, cette journée, les enseignants la passent dans la méditation, dans des revendications, parce que ils déplorent les conditions dans lesquelles ils travaillent, les conditions dans lesquelles ils vivent, parce que ils sont pas bien pris en charge par l'État.
Eh bien, justement, c'est ça, madame journaliste. C'est très important. Vous avez entendu, j'ai parlé des acteurs qui interviennent dans ce qui est dans cette branche-là qui est l'enseignement. Et j'ai cité le pouvoir public, j'ai cité les autorités. Alors, les autorités doivent mettre le moyen. Le moyen doit être matériel, le moyen doit être financier. Le moyen doit être didactique aussi. Vous voyez, alors, si l'enseignant n'est pas bien rémunéré, si ses conditions de travail ne répondent pas, si la vie sociale, il faut absolument que l'enseignant travaille dans de meilleures conditions. Si toutes ces conditions-là ne sont pas réunies, en tout cas, c'est très difficile pour que l'enseignant travaille avec conviction, avec amour, avec professionnalisme. Vous voyez? Donc, là-dessus, il y a le pouvoir public qui doit mettre, comme on dit, si vous me passez l'expression, la main dans la poche. C'est-à-dire qu'il faut un budget conséquent pour non seulement le programme de l'enseignement, mais surtout pour rémunérer comme il se doit les enseignants. Ça, les enseignants, c'est le socle même, je vais dire. Vous voyez? Donc, s'il est mal payé, il pourra pas enseigner. Il risque même de tomber dans les antivaleurs, c'est-à-dire dans la corruption, dans des magouilles, dans des pratiques qui sont immorales.
Alors, professeur Mafeli, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au Sud-Kivu.
Arnaud Ombeni, à partir de Bukavu au Sud-Kivu. Le système éducatif de la RDC est au plus bas niveau et laisse à désirer. La responsabilité est partagée entre l'État et les enseignants. L'État, pour le faire habituer à ce secteur aussi, au lieu de faciliter Les élèves des classes terminales, au primaire comme au secondaire, l'État ne fait qu'augmenter les frais de participation au CNAFEP et à l'examen d'État. Les enseignants qui ne bénéficient que de l'argent que payent les parents. La chose étonnante est que plus l'État augmente la petite enveloppe salariale, plus les écoles augmentent la prime et diversifient les frais connexes, surtout dans les écoles conventionnées. Les enseignants ne bénéficient plus du niveau des élèves et étudiants, mais de ce qu'ils gagnent comme prime et ou droit d'auteur. Les pauvres parents qui s'efforcent de scolariser leurs enfants n'ont plus de temps pour assurer le suivi de leurs enfants car ils doivent se battre pour répondre aux caprices des enseignants. Nous appelons l'État, seul et unique employé, les enseignants, à ses responsabilités car en sacrifiant l'enseignement, ils hypothèquent l'avenir du pays.
Alors, professeur Mafili, qu'est-ce que vous répondez à la préoccupation ou à l'analyse de cet auditeur qui nous a écrit de Bukavu? Il pense que la responsabilité est partagée entre les et les enseignants.
Oh, mais il a raison. Moi, je dirais encore plus loin, la responsabilité est partagée. À l'État, je viens de dire, j'ai parlé de l'État qui doit mettre le moyen. Et puis, il y a les enseignants qui doivent être bien formés et puis bien rémunérés. Donc, on doit améliorer leurs conditions de travail. Et puis, non seulement je ne me limiterai pas seulement là, je responsabilise aussi les parents. Les parents aussi n'ont pas des responsabilités dans tout cela. Et là, il a parfaitement raison de ce qu'il dit, mais franchement, il faudra que tout le monde, tous les acteurs qui sont concernés par l'enseignement, par la formation des enfants, par la formation des élèves et tout cela, doivent faire leur travail avec professionnalisme, avec amour, avec détermination, avec conviction, vous voyez. Alors, si ces conditions-là ne sont pas réunies, franchement, demain, nous risquons d'avoir une jeunesse tout à fait, inopérante. Quoi.
Alors, pour Arnold Ombéné, professeur Mafeli, l'enseignant aujourd'hui, qu'il soit du primaire, secondaire ou même de l'université, ne se soucie plus du niveau des élèves, des étudiants, mais c'est plutôt, il pense à sa prime ou à son salaire, quoi.
Non, pas forcément, pas forcément. Si on pense à supposer qu'un professeur d'université ne pense que à son salaire, c'est qu'il y a un problème. Il y a un mal quelque part, parce que peut-être parce qu'il est mal rémunéré. S'il est bien payé, si les conditions sociales, hein, les conditions de travail sont meilleures, mais je ne vois pas pourquoi il va tomber dans les antivaleurs, je ne crois pas. De la même manière pour un enseignant de secondaire ou de primaire, non, je ne crois pas. Vous voyez, c'est-à-dire que le problème aujourd'hui, le nez du problème est entre le nez de pouvoir public. C'est l'État. L'État doit... Aujourd'hui, madame, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez lu le budget qu'on a présenté pour cette année pour concernant l'enseignement? Vous avez lu, il est de combien? Le budget chargé de l'enseignement. Il connaît l'État, le pouvoir public, l'État a prévu pour l'enseignement primaire et secondaire et professionnel. Vous connaissez le montant?
Vous pensez qu'il est insuffisant?
Ça représente rien du tout. C'est rien. Pour un pays comme le nôtre, nous avons des jeunes gens qu'on doit former. On dit la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Hein? Les gens vieillissent, ils meurent. Mais qui va remplacer les RDCiens? Qui?
Donc, merci,
nous
professeur.
Nous devons former ces jeunes gens-là. Nous devons avoir... pour qu'on ait un bon pays.
Merci,
pays,
professeur Mafeli. Monsieur Fabien Boué, tout est là mieux. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Patient Paul Longoï, résident à Limété, Kinshasa. Je me demande si le gouvernement a réellement le souci que l'enseignement soit tel qu'il le souhaite, aussi le temps que la prise en charge des enseignants pose problème. Améliorer les conditions pour que celles-ci se retrouvent mieux, car s'engager à sa lutte, mais oublier l'acteur principal paraît moins sérieux et cela manifeste que la volonté n'y est plus.
Monsieur Fabien Mbouetoutela, on a l'impression qu'il n'y a pas de volonté pour améliorer les conditions des enseignants. Bon, selon Paul, patient Paul qui nous écrit de Kinshasa.
Non, la volonté est d'améliorer les conditions de vie et de travail de l'enseignant, n'est-ce pas, existe. Elle est même prise en compte dans les documents de stratégie du développement du secteur de l'EPSP. Ce document qui est en train d'être mis en œuvre par le plan intérimaire de l'éducation. Dans le plan intérimaire de l'éducation, en cours, n'est-ce pas, d'exécution, intègre l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant.
et vous verrez que les efforts sont en train d'être progressivement, plutôt, les efforts sont en train d'être progressivement fournis par le simple fait que, peu avant 97, nous avions constaté qu'il y avait plusieurs zones salariales au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Le gouvernement avait réussi à initier, n'est-ce pas, à créer une seule zone salariale. L'enseignant de Kinshasa, qui avant touchait presque le triple de celui de l'intérieur, aujourd'hui a le même salaire avec celui de l'intérieur.
Salaire qui arrive en retard.
Non, le salaire n'arrive pas en retard, madame. Vous êtes avec nous. Je sais qu'il y a des petits problèmes là où il n'y a pas de banques. Mais partout où il y a des banques, les salaires n'arrivent plus en retard. Et aussi, n'est-ce pas, là où il n'y a pas de banques, Caritas est en train de fournir beaucoup d'efforts pour que les enseignants soient payés à temps. Madame, moi je vous rassure, sincèrement, je sais que le salaire qui est payé n'est pas suffisant, ne suffit pas pour qu'un enseignant puisse réunir les deux bouts du mois, mais il y a un début de solution par rapport au social de l'enseignant. M. Kimbuya a essayé d'épingler la situation sociale en rapport avec les soins de santé, la mutuelle de santé qui se trouve à Kinshasa, qui est en train de s'étendre dans les Katanga, et a réglé plusieurs problèmes. Nous, à l'époque, nous qui avons commencé l'enseignement primaire ici avant, qui avons la possibilité de comparer ce que nous avons été hier comme enseignants et ce que sont devenus aujourd'hui les enseignants, je pense qu'il y a quand même une légère amélioration.
Alors,
la prise en charge des enseignants par les parents, effectivement, c'est un frein, c'est une difficulté parce que les parents eux-mêmes n'ont pas assez de ressources et aussi les écoles ont des problèmes par le simple fait que les enfants issus des familles qui peuvent facilement payer ne vont pas dans n'importe quelle école. Il y a des écoles qui sont défavorisées. C'est une lutte, mais c'est un processus.
Monsieur...
Je pense que les enseignants doivent compter sur la bonne volonté du gouvernement qui, du reste, est en train, quand bien même avec trop de peines, trop de difficultés, de revoir petit à petit la situation des enseignants.
Merci, M. Fabien Mbotoutelamio. Jean-Pierre Kimbuy, on va prendre, c'est pour vous, cette réaction qui nous vient de Kalima Omanyema.
Depuis la ville de Kalima au Maniema, la qualité de l'enseignement en RDC n'est pas du tout bonne parce qu'il y a des enseignants qui sont corrompus par leurs élèves. Les fils des enseignants passent des classes sans être intelligents et les élèves qui arrivent deux fois par semaine, mais ils passent aussi des classes.
Alors, quelque part, l'enseignant est aussi responsable de cette baisse de niveau de qualité à cause de la corruption. Cet auditeur qui relève, par exemple, le fait que les enfants des enseignants passent des classes même quand ils sont pas intelligents, il y a un peu du favoritisme.
Oui, madame, d'ailleurs, je soutiens ce qu'a dit le prof. Je m'abuse pas. L'enseignement, c'est une valeur. Je ne soutiens pas la corruption. Mais pourquoi les enseignants se font-ils corrompre, madame? Pourquoi? Parce que ne devient pas enseignant qui veut. L'enseignant, fort jeune de la République, c'est celui-là qui véhicule les valeurs dans une société. Pourquoi il s'est fait corrompre l'enseignant? C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les salaires, il y a eu des augmentations, des salaires. Mais au jour d'aujourd'hui, ces augmentations n'ont pas suivi les cours de la vie. Ce qui fait que l'enseignant, en tant que parent, en tant que celui-là qui doit transmettre les valeurs, qui doit être le modèle, est en difficulté.
Le directeur provincial l'a reconnu, des efforts sont en train d'être faits.
Tout à fait, je ne nie pas ces efforts, mais par rapport au coût de la vie, et les parents, l'éducation est devenue plus une marchandise. Il y a la marchandisation de l'éducation. C'est un service à rendre, n'est-ce pas, à la communauté.
Est-ce que c'est parce que le salaire ne suit pas le cours de la vie que l'enseignant doit se laisser corrompre par les élèves?
Non, je condamne cela. C'est pour ça que je dis qu'il ne devient pas enseignant qui veut. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un diplôme, il doit être enseignant. Donc l'évaluation, en tout cas pour retenir quelqu'un comme enseignant, doit être rigoureuse. On doit tenir compte de toutes les qualités requises pour être un bon enseignant. Donc, c'est vrai, il y a la corruption. Il y a la corruption, ça joue beaucoup. Et quand on monte les cotes, les enfants passent des classes et le niveau n'est pas bon. Ces gens-là vont avoir leur diplôme, ils vont se retrouver dans la société. C'est des gâchis parce que l'enseignant, c'est le socle. Mais je répète ici et j'interpelle encore l'État. L'État paie tout. L'État paie tout. C'est une question budgétaire.
Pour mettre le fait...
Non, je pense que si l'État met des moyens, c'est-à-dire les budgets de l'éducation, autour de 14%. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, c'est autour de 20%. Avec 14%, on n'y paie rien. Donc, il faut des efforts pour l'État congolais de pouvoir, en tout cas, rehausser les volets rémunération pour les enseignants.
Alors là, vous êtes en train déjà de parler des solutions. Qu'est-ce qu'il faut pour un enseignement de qualité en RDC? L'État doit revoir le budget alloué à l'enseignement.
Oui, revoir les budgets alloués à l'enseignement. C'est vrai. Et il y a oui pour les infrastructures scolaires et universitaires, oui pour les laboratoires, oui pour les matériels didactiques, oui pour les nouveaux contenus disciplinaires, mais il faut qu'on pense à la pièce maîtresse qu'est l'enseignant. Parce que magister dixit, le maître a dit, le maître était un modèle, nous voulons que le maître redevienne encore le modèle. Nous avons peur pour l'avenir. Il faut que l'autorité budgétaire qu'est le Parlement pense aussi à mettre suffisamment des moyens dans le système éducatif, ça va jouer sur la qualité. Mais quand un enseignant n'est pas bon, de toute manière, il ne devient pas bon parce qu'on lui paye un bon salaire. Il doit avoir été bien formé initialement et être à la page des révolutions technologiques, des révolutions scientifiques. Donc, je ne soutiens pas la corruption, mais je pense que l'État a la tête de la solution. Mais les parents, et même aussi, je peux dire ici, parfois encouragent ces pratiques, les parents. Et pour que les enfants passent des classes, même s'ils n'ont pas un bon niveau, qu'ils puissent nécessairement passer des classes.
Et les enseignants se laissent faire.
Les enseignants se laissent faire. Là, je condamne. Mais il faut qu'on mette les enseignants à l'abri parce que nous défendons les enseignants, que nous sommes nous-mêmes des enseignants de formation de carrière. Il faut qu'on pense à monsieur l'enseignant parce que c'est celui-là qui est le modèle, qui est le forgeron de la République.
Merci Jean-Pierre Kimbuya, professeur Mafeli Makambo. Qu'est-ce qu'il faut pour un enseignement de qualité en RDC? Jean-Pierre Kimbuya a évoqué le problème de budget. Il faut revoir le budget à l'éducation. La formation des enseignants est aussi importante pour avoir des enseignants ou des professeurs de qualité. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce que aux propositions de Jean-Pierre Kimbuya?
Exactement. Bon, vraiment, j'avoue, quelque part, il a raison. Nous avons franchement dit quand même l'essentiel en impliquant le pouvoir public, c'est-à-dire que d'avoir des budgets conséquents, d'une part, et d'autre part, les budgets, c'est pour mieux rémunérer les enseignants. Et puis, il y a aussi dans ce qu'on appelle qualité de l'enseignement, il y a d'autres facteurs aussi qui doivent intervenir. Je vais dire que le pouvoir public doit aller plus loin pour améliorer aussi la qualité de l'enseignement. D'abord, chercher à motiver les jeunes gens à pouvoir étudier aussi. Parce qu'on peut être un bon enseignant, on peut donner de l'enseignement de qualité, mais ne croyez pas que l'enseignement de qualité n'existe pas. L'enseignement de qualité existe dans notre pays. Mais seulement, il y a le récepteur, c'est-à-dire les consommateurs de cet enseignement, ce sont les enfants. Il y a trop de distractions aussi, au plan purement socio-culturel. Regardez ce que nous voyons à la télévision, les images qu'on montre à la télévision. Regardez aussi l'accoutrement de nos jeunes, de nos enfants à l'école. Regardez leur façon de raisonner, leur façon de parler. Ils se laissent faire, ils peuvent faire la facilité. Tout cela, l'État doit prendre aussi des mesures pour pouvoir corriger tous ces aspects de problèmes. Le problème socio-culturel, l'État aussi doit y penser. Regardez ce qui se passe dans des cybercafés, dans des Facebook, les images à la télévision, les musiciens qui nous montrent des femmes qui dansent à moitié nues presque. Mais tout ça fait partie de l'éducation. Parce que le grand consommateur, c'est l'enfant. Parce qu'à un certain âge, l'enfant, l'élève est trop réceptif. C'est un grand consommateur des images, de ce qu'il voit, y compris facilement. Ça aussi, c'est un aspect de problème. C'est de la distraction. Donc, tout cela entre en compte. Donc, l'État aussi doit réfléchir sur cette question. Mais nous, bon, nous pouvons nous focaliser sur le moyen, sur la rémunération, l'amélioration et tout. Mais il y a aussi cet élément-là, l'élément de facteur socio-culturel. On doit aussi pencher là-dessus. Voilà ce que je fais.
Mais l'enseignant peut aussi aider l'élève ou l'étudiant à pouvoir, à ne pas se laisser distraire par tout ce que...
Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Mais la famille, c'est la première école de socialisation de l'enfant. Vous voyez, c'est là où c'est la grande école. Alors, le parent a une part des responsabilités, je vous l'avais dit aussi. Alors, pour que le parent assume complètement ou entièrement les responsabilités, mais il y a aussi le problème, un autre facteur qui peut intervenir, peut-être des fois, si le parent est fonctionnaire, mal payé, ou le salaire arrive en retard, ou il y a des arriérés, des paiements. Vous voyez, tout ça, ça c'est de un. De deux, le niveau intellectuel des parents aussi, ça compte pour former et assister l'enfant, encadrer l'enfant. Ça c'est aussi ça compte, c'est un facteur aussi qui entre en compte, en ligne de compte, pour la formation des enfants.
Merci professeur Mafeli Makambo. Monsieur Fabien Boué, tout est la nuit. Il nous reste au moins de 4 minutes pour mettre fin à cette émission. Vous avez suivi les propositions des uns et des autres. Il faut revoir le budget alloué à l'enseignement, la formation des enseignants. Vous nous avez dit tout à l'heure que des réformes étaient déjà en cours pour améliorer la qualité de l'enseignement en RDC. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter d'autre?
Bon, je pense que je partage les avis de de nos deux compatriotes. Je partage leurs avis, mais une chose est vraie. Nous ne pouvons pas continuer à évoquer la question en rapport avec les 30% du budget alloué à l'EPSP. Quand on dit non, le pourcentage alloué à l'EPSP, 14%, ainsi de suite. Non. Maintenant, on parle de plus de 660 000. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais que nous avons plus ou moins au-delà de 600 000 enseignants en République démocratique du Congo. S'il faudra qu'on paye ces enseignants, comme partout ailleurs, je sais qu'il y a j'ai un cas, le cas du Cameroun, où un enseignant licencié a plus ou moins $300 par mois. Si aujourd'hui on disait aux enseignants de Kinshasa de toucher $300 par mois, je ne pense pas qu'on puisse résoudre les problèmes tels que les amis cherchent à les résoudre aujourd'hui.
Alors on va aussi conclure, monsieur Boué-Touté Lamio.
Quand on a $300 là, nous allons continuer à nous plaindre de certains éléments négatifs par rapport à l'éducation.
En conclusion?
Je pense qu'il faudra, comme l'a toujours souligné le ministre Makem Wangou Famba, il faudra une implication de tout le monde.
Merci les Fabien Boué-Touté-Lamio. On n'a pas beaucoup de temps, excusez-nous. Jean-Pierre Kimbuya, ça sera votre mot de conclusion.
Oui, en fait, ici, moi, j'interpelle encore l'État congolais parce que l'État fait tout. Quand je dis l'État, il y a à la fois le gouvernement, il y a les parlements qui doivent, n'est-ce pas, privilégier l'éducation. Faire de l'éducation une priorité. Mais les enseignants eux-mêmes aussi, et pourquoi pas les parents. Et je pense que les enseignants des provinces doivent comprendre aussi que nous pensons à eux, nous les enseignants de Kinshasa, ils sont en difficulté, ils doivent tous, n'est-ce pas, réfléchir sur des propositions pour que les systèmes soient améliorés. Nous avons besoin de leurs idées comme ils nous envoient. Ça va être intéressant pour que l'éducation soit une question d'intérêt national, une question de la collectivité, pas seulement une question individuelle ou des Quinois. Je crois, et je répète que l'État paie tout.
Merci Jean-Pierre Kimbuya, professeur Mafeli Makambo. Un mot en guise de conclusion.
Non, mais je dirais que tout le monde, chacun doit assumer sa responsabilité. Hein. Tout le monde a une part de responsabilité. Bon, nous devons tous assumer, nous devons nous investir pour améliorer tout cela, y compris l'État, mais en tenant compte de tout ce que nous venons de dire tout à l'heure. Là. Et surtout le facteur socio-culturel, c'est de la distraction. Il y a trop de distractions aussi.
Merci professeur Mafeli Makambo, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à la présenter, à la réaliser, à la préparer, je voulais dire. Alain Hirung, Samuel Kachak, sous la supervision de Pelé Kipelamondo. La mise en onde était assurée par Willem Lungamba au micro, Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Rediffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.